Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Marie-France qui a contribué à la création du Centre Social Bonnefoy dans le 3e arrondissement de Lyon. Ce centre a ouvert ses portes en 2006, porté par une association d'habitants et de militants du quartier. Il offre maintenant une multitude d'activités et il tient un rôle important dans le quartier. Bonjour Marie-France.
Bonjour Catherine.
Alors, on va commencer par présenter le Centre Social Bonnefoy. C'est quoi le Centre Social Bonnefoy et qu'est-ce qui s'y passe?
Eh bien, le Centre Social Bonnefoy, c'est un centre social. Et un centre social, c'est un équipement de proximité qui a une vocation d'animation de la vie locale, donc qui est une structure qui répond à des contraintes qui sont liées à un projet d'agrément, puisqu'un centre social est labellisé par la caisse d'allocation familiale et donc répond à des critères très précis. Donc c'est un équipement de proximité lié à un territoire particulier. Donc ça veut dire que un centre social doit être adapté au territoire dans lequel il est implanté. Ce centre social de la rue Bonnefoy, il est implanté dans le quartier de la place du Pont, le quartier Moncey, qui est un quartier emblématique et historique de la Guillotière. C'est un quartier de centre-ville, d'hypercentre, avec une vocation d'agglomération, mais en même temps, un quartier qui est toujours en politique de la ville, en géographie prioritaire, c'est-à-dire qui est le quartier le plus pauvre de Lyon, avec une population extrêmement modeste, voire fragile. C'est un quartier dans lequel il y a beaucoup de nationalités différentes, on pense une trentaine de nationalités. Donc c'est un quartier où il y a des grandes difficultés sociales. Mais c'est aussi un quartier de grande activité commerciale, puisqu'il est en hypercentre, avec beaucoup de commerce, de restauration, d'habillement, de grossistes. Et c'est aussi un quartier qui est situé donc en centre-ville et au cœur de la Guillotière, qui est un territoire de Lyon qui est en train de bouger, parce que jusqu'à il y a une dizaine d'années, il était un peu abandonné. Et aujourd'hui, c'est un territoire où il y a énormément d'initiatives associatives, de gens qui créent des commerces, des restaurants, des cafés qui sont très très vivants, avec donc des diversités sociologiques importantes. Et la mission du centre social, c'est à la fois de répondre aux problématiques les plus urgentes des populations les plus fragiles, qui peuvent être par exemple d'apprendre, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont des primo arrivants ou des immigrations assez anciennes, mais de personnes qui n'ont pas appris à parler le français. Donc on a énormément de gens qui viennent là pour apprendre, pour suivre des cours de français. On a toute une offre de loisirs pour les enfants, avec un centre de loisirs qui est très très important, mais vous voyez qui touche, on a des tarifs qui sont évidemment adaptés à notre public. On a donc beaucoup d'activités, d'initiation à des pratiques culturelles ou artistiques qui sont proposées par des bénévoles, puisque au centre social, la plupart des activités sont gratuites. Et la plupart des activités sont effectuées par des bénévoles. On a une centaine de bénévoles. Donc, ça permet de mettre à la disposition des personnes qui sont les plus éloignées des pratiques artistiques ou culturelles ou citoyennes, de les mettre dans ce mouvement-là. D'aller vers elle. C'est aussi le centre social, c'est la prise en compte de la fracture numérique ou de la fracture administrative, puisque on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal avec leur paperasse administrative, leur démarche pour obtenir leur retraite, pour se dépêtrer dans leur dossier de santé. Donc on a un pôle d'accès au droit qui accueille plus de 5000 personnes par an qui viennent pour qu'on les aide dans leur démarche. Et là aussi, cette activité, ce pôle d'accès au droit, il est assumé par des associations ou des bénévoles. Le centre social, c'est également l'animation de la vie sociale, c'est-à-dire des fêtes, des événements culturels, des repas de quartier, des apéros de quartier, des temps de convivialité. C'est aussi une structure qui accueille des associations, parce que il y a un bouillonnement dans les cœurs de ville, comme ça il y a un bouillonnement associatif important, et toutes les associations n'ont pas de lieu où elles puissent être hébergées et mener leurs activités. Donc le centre social, il a cette fonction-là. Donc vous voyez, de répondre à la fois aux demandes sur la base d'un diagnostic qu'on refait, d'un diagnostic social qu'on fait en continu, en discutant avec notre public, en observant, mais aussi tous les 4 ans, on refait un diagnostic approfondi, parce que les problématiques changent ou s'aggravent ou se résorbent. Et il a cette vocation-là, mais il a aussi la vocation, justement, dans un quartier qui est très fragmenté sociologiquement, de mettre du lien et de créer de la solidarité, voyez. Parce que la mixité, on parle toujours de mixité sociale, de vivre ensemble, mais ça passe souvent par la solidarité, le fait que y ait des gens qui donnent de leur temps ou de leur expertise bénévolement pour aider d'autres personnes, ça crée du lien, ça crée de la relation. Parce qu'avant de créer du lien social, il faut créer de la relation entre des personnes. C'est aussi, j'ai oublié d'en parler, l'accompagnement scolaire, enfin toutes les choses qu'on trouve dans un centre social. Mais la spécificité du centre social Bonnefoy, c'est que il est dans un quartier qui est quand même très atypique. La plupart des centres sociaux, ils sont dans des banlieues, dans des zones qui sont plus homogènes sociologiquement. Ici, il y a aussi toute l'histoire. C'est un quartier historique qui date du Moyen-Âge, où il y a une histoire très importante de mobilisation, de résistance, de tradition d'accueil des immigrations. Et donc, au centre social, on a aussi cette dimension de travailler sur notre mémoire et notre identité, qui est une identité non pas de repli, au contraire d'accueil, de brassage, d'hospitalité, qui est vraiment dans l'ADN du quartier.
Donc ce centre social, en fait, il propose aussi une vraie mixité dans ses locaux, hein, entre les bénévoles, une centaine, vous avez dit, de bénévoles qui proposent des activités, et les personnes qui viennent en bénéficier, si on peut dire. C'est un vrai échange.
Oui, il y a à peu près 1000. On a un public d'à peu près 1000 usagers, mais adhérents, une centaine de bénévoles. Oui, et pour coordonner tout ça, parce que c'est pas évident à coordonner entre les structurer ces activités. En fait, il faut des salariés. Il faut des salariés pour créer de la pérennité, rendre tout ça possible. Donc notre intention, c'est justement de mutualiser des locaux, de mutualiser des moyens, parce que du coup un centre social, ça a des moyens. Ça permet aux gens de se rencontrer, de faire des choses ensemble, parce que on parle beaucoup du vivre ensemble, mais je pense que il faut faire des choses ensemble pour apprendre à se connaître, créer de la relation, des relations très personnalisées pour dépasser des peurs, des rejets, je ne sais quoi. Donc sa vocation et son action, c'est de créer toutes ces passerelles entre, par exemple, quelqu'un qui vient mettre son enfant à la LSH, au centre de loisirs, eh bien, de l'orienter peut-être vers une activité plus culturelle, et puis peut-être vers aller prendre des cours de français, ou peut-être l'aider à faire ses démarches. C'est-à-dire que on n'est pas que consommateur, c'est aussi pour aider les gens à aller plus loin. À aller plus loin pour aller vers plus d'autonomie. Notre devise, c'est autonomie, ouverture, créativité. C'est pas on vient pour consommer, mais c'est on vient pour devenir plus autonome. Parce que le problème de la fracture sociale, administrative, numérique, c'est que on est du coup dans la dépendance. Et c'est d'aider les personnes à trouver les moyens de devenir plus autonomes pour créer leur vie, aller vers les autres, voilà. Et ça va effectivement dans les deux sens, parce que on voit quand même qu'on a beaucoup de bénévoles, parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de donner du sens à leur vie aussi par une action dans la société. Donc c'est utile. C'est utile parce qu'on permet cette organisation-là et ces passerelles-là. Voilà.
Est-ce que vous pouvez maintenant nous en dire un peu plus sur les débuts du centre social? Dans quelles conditions il s'est créé? Dans quelles conditions il s'est pensé et il s'est créé?
L'idée, et c'est pas une blague, hein. L'idée du centre social, elle a germé le 11 septembre 2001. On était en réunion, parce que à l'époque, comme on était mobilisé pour empêcher la démolition du quartier et pour obtenir sa réhabilitation, on avait créé le comité d'habitants, qui était un comité de quartier, qui se réunissait tous les mardis. Et c'est à l'occasion de ces rencontres, qui étaient en fait des groupes de parole, où on avait 50 personnes du quartier qui venaient, qui parlaient de tout. Des rats, des souris, des cafards, des problèmes d'ascenseur, des problèmes de logement, des problèmes de famille, des problèmes de boulot, de santé. Et le 11 septembre, c'était un mardi. Et on était en réunion. Et il y a une journaliste du Progrès et qui me téléphone et qui me dit « T'as vu ce qui s'est passé aux États-Unis ?» Et pour moi, les États-Unis, c'était le quartier du 8e. Et je dis « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ?» Et elle m'a répété ça et elle voyait que je réagissais pas, mais elle me dit mais New York, j'étais pas au courant en fait, personne était au courant. Et elle dit je viens. En fait, elle voulait venir à la réunion parce que c'était cette réunion du comité du mardi, c'était the place to be. Tous les élus venaient, les journalistes venaient, ils discutaient avec les gens. C'était la démocratie participative avant que ça soit à la mode. Et elle me dit, je viens interviewer les femmes du quartier. Donc, vous voyez, l'association qui était faite, l'attaque du 11 septembre, association avec Islam, les musulmans. Donc, je vais interviewer les habitants du quartier arabe pour savoir comment ils perçoivent ça. Et elle est venue pour interviewer les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça, les femmes du quartier. Et quand elle est partie, Les femmes m'ont dit, donc qui étaient essentiellement d'origine maghrébine, qui étaient musulmanes, elles m'ont dit, Marie, à partir de maintenant, il faut qu'on fasse des choses ensemble. J'ai dit, mais quoi? Mais on fait des choses ensemble. Non, là, on parle ensemble, on se bat pour notre quartier, mais faire des choses ensemble, c'était faire la fête, par exemple. Et je leur dis, mais pourquoi? Parce que tout va être fait maintenant pour nous séparer. C'est-à-dire, vous voyez cette intelligence, cette sagesse,
cette clairvoyance.
Et j'ai dit, ah non, moi je voulais pas faire. Vous voyez, j'étais une intello, je voulais pas faire du social. Ça me gavait, moi, le social, c'était l'urbanisme, tout ça. Pour moi, c'était plus noble, on va dire. Et je leur dis, ah non. Alors, si. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et j'aime bien cette idée, parce que vivre ensemble, ça peut être se cohabiter. Mais faire, c'est encore autre chose. Et c'est là qu'elles nous ont obligés, on va dire, à réfléchir à un lieu de vie. où on puisse faire des choses ensemble. Donc elles nous ont imposé, je peux le dire, elles nous ont imposé de faire du soutien scolaire. Un jour, elles nous ont dit, peu de temps après, je crois la semaine après, elles ont dit, ouais, alors vous, les intellos, vous êtes toujours en train de prendre de notes avec vos cahiers, et nos gamins, ils ont pas de soutien scolaire, et ils échouent. On veut du soutien scolaire. Et non, 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 on veut pas. Si, si, on veut des sorties, on veut des fêtes. Et alors, on a lancé le ramadan, c'était en novembre, donc juste après, elles ont lancé les samedis du ramadan. Et on faisait les samedis des fêtes incroyables dans un local qui était minuscule. Et il y avait 70 personnes. Et tout le monde venait nous voir. C'était quelque chose de... On a lancé le premier Noël. Vous voyez, ça se faisait pas du tout. Dans le quartier, il n'y avait pas d'arbre de Noël. Il n'y avait pas de Noël puisqu'on était dans un quartier arabe. Et donc, ils fêtent pas Noël les 8 décembre. 8 décembre, c'était pas pour nous. Vous voyez, et elles ont dit, il faut qu'on se normalise et qu'on fasse des choses. Et c'est elles qui ont été à l'origine de cette idée. Et on a bien fait de les écouter. Vous voyez. Alors le centre social Bonnefoy, c'est une exception. C'est une exception culturelle parce que le quartier Moncès est une exception culturelle. C'est une exception parce que d'abord c'était le premier centre social qui se créait à Lyon depuis 30 ans. Il y avait plus de centres sociaux. Les centres sociaux, c'est quelque chose qui était un petit peu ringard, je vais dire, au début, puisque on l'a pensé au début des années 2000. C'est vraiment quelque chose qui était lié aux années 50, de l'éducation populaire. Et quand on a lancé cette idée-là, tout le monde nous prenait, bah oui, pour dire, c'était un peu obsolète, quoi, je vais dire. Et nous, pourquoi on a voulu un centre social ? Parce que on voulait un équipement qui soit du solide, qui soit pérenne, et qui a un financement qui soit assez stabilisé, puisque par le biais du projet de l'agrément CAF, on a des financements qui sont stables pendant 4 ans. Et on voyait que pour travailler dans des quartiers comme ça, il faut s'installer dans la durée. Vous voyez, être à la fois innovant, adapté aux mutations du territoire, mais en même temps avoir une certaine tranquillité par rapport au financement. Et on s'est dit que finalement un centre social, c'était le type de structure qui était le plus adapté pour s'inscrire dans la durée et avec une certaine liberté. Alors pourquoi atypique? Il est atypique parce que dans son mode de création, d'émergence, la plupart du temps, les centres sociaux étaient ou des centres sociaux municipaux ou des centres sociaux CAF. C'est-à-dire que ça venait d'en haut et c'était géré ou par des équipes. D'ailleurs, en France, il y a beaucoup de centres sociaux et qui sont des centres sociaux municipaux. C'est-à-dire que c'est la ville qui décide d'implanter à tel endroit un équipement qui va répondre aux besoins de la population de ce territoire. Nous, on a choisi de faire un centre social associatif, donc avec une gestion associative. On a désiré cette structure-là, on l'a portée parce que c'est pas évident d'arriver à l'ouverture. Toute la phase de construction, elle est quand même assez ardue. Et surtout, on a préfiguré les actions. C'est-à-dire que, par exemple, une action dont je n'ai pas parlé, mais qui est une action vraiment symbolique, qui nous paraît assez anodine, c'est les sorties familiales. Dans des quartiers comme le nôtre, organiser des sorties familiales, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour les gens, de pouvoir sortir, aller voir la mer, aller à la montagne, de sortir de son contexte quotidien, c'est quelque chose de... qui est très important. Donc, une des premières choses qu'on a faites avant d'ouvrir le centre social à partir de 2000-2001, c'est d'organiser des sorties familiales, d'organiser du soutien scolaire, d'organiser des fêtes, de l'accès aux droits. Donc, on a préfiguré des actions avant même de les mettre en place dans le centre qui a ouvert en 2006.
Vous avez démarré les actions alors que vous n'aviez pas en fait les locaux.
En fait, on n'avait pas les locaux tels qu'ils sont actuellement, mais on avait obtenu des locaux qui ont été achetés en 2001 par l'équipe municipale de Gérard Collomb dans son premier mandat, mais qui a été très à l'écoute de nos demandes. Et il y avait surtout l'élu à l'action sociale, qui était Martine Rour, qui était une élue qui était née dans le quartier, rue Montebello, et qui était à l'écoute de nos demandes d'un équipement. Donc, on a squatté en quelque sorte les locaux avant qu'ils ne soient en travaux. Et donc c'est là qu'on faisait nos activités. C'est complexe de faire un projet, un diagnostic, de monter un projet comme ça, d'obtenir les subventions. Donc il y avait une espèce de, j'allais dire, de commando qui travaillait là-dessus, parce que ça nous a demandé quand même beaucoup d'acculturation, de rentrer dans... On était des militants, on était des militants de lutte urbaine, puisqu'on s'était battus avant pour que les logements soient réhabilités, pour que les espaces publics soient mis en conformité, refait. Donc on avait plus une expérience de la démocratie participative, de l'urbanisme, que du social. C'était pas notre, on venait pas ni par nos activités professionnelles, on venait pas de ce monde-là. Donc il a fallu qu'on s'acculture à tout ça, et dans des délais très courts, parce que on a lancé l'idée du centre social en 2001. On a obtenu les locaux en 2001. On a créé l'association porteuse en janvier 2003. Et on a ouvert en avril 2006. Donc ça veut dire qu'en 3 ans, on a fait le projet, on a obtenu l'agrément, on a fait les travaux. Donc en 3 ans, ça fait beaucoup de travail. Et on voulait pas qu'il y ait une déconnexion entre l'équipe qui portait le projet, qui négociait, parce que tout ça, on l'obtient pas en soufflant dans une paille. Et donc les activités de préfiguration, ça nous a permis de rester connectés avec notre public. Ils voyaient le centre social se mettre en place via des activités qui correspondaient d'ailleurs à leurs demandes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est que quand, vous voyez, nous, on faisait un diagnostic avec des chiffres, avec des observations, naninana, des données sociologiques, économiques, voilà. Et en fait, quand les habitants nous disaient, il faut faire telle activité, eh ben, c'est eux qui avaient raison. Et ces activités, au bout de 11 ans, là, puisque ça fait maintenant 11 ans qu'on a ouvert, elles sont toujours là. Les activités, on a observé que on a toujours des salariés qui veulent imposer des activités parce qu'ils les ont faites ailleurs ou qui pensent que ça pourrait être bien. C'est des activités qui sont éphémères. Et donc, c'est évident que ça marche mieux quand on est à l'écoute des besoins de son public.
Et à partir du moment alors où cette idée a commencé à germer en 2001, qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle sur le chemin?
Eh bien, le plus gros, alors je vais me faire des ennemis en disant ça, notre idée, elle a été comprise. Je dois dire qu'il y a une grande compréhension de la part de l'équipe de Gérard Collomb. Ils ont compris. On a eu des élus qui ont compris ce qu'on voulait faire et qui nous ont donné les moyens d'aller, les moyens matériels, d'aller au bout de cette idée. Par contre, on a rencontré, mais vraiment, des résistances phénoménales de la part du milieu associatif, des partenaires du territoire. Parce que il y a, vous voyez la politique de la ville, elle a créé une sorte de marketing social, où on s'était réparti les clientèles. Toi, tu t'occupes des vieux, toi, tu t'occupes des jeunes, toi, tu t'occupes des enfants, toi, tu t'occupes de ci, toi, tu t'occupes de ça. Et chacun son territoire. Nous, on a fait bouger les lignes parce qu'un centre social, il est à vocation globale. C'est-à-dire qu'il peut s'occuper de, il peut s'occuper de tout le monde. Et il est implanté, il ne fait pas qu'une offre de loisirs. Il doit être en lien avec son territoire. Donc, du coup, on a fait peur. Parce que on avait des gros moyens par rapport à toutes les petites associations qui essayaient de survivre en demandant tous les ans, en émargeant à la politique de la ville, avec surprojets, etc. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont cru que le centre social allait tout phagocyter et qu'il allait aspirer tout, alors que nous, on voulait au contraire que le centre social soit un soutien à la vie associative. Et qu'il avait, au contraire, il devait permettre à des associations de vivre, d'émerger et ne pas tout aspirer. Parce que dans beaucoup de banlieues, il y a un centre social, point barre. Et il n'y a pas de vie associative autour, voyez. Donc, il y a eu beaucoup de malentendus ou de projections sur ce qu'on allait faire. Et je dois dire qu'on nous a pas fait de, on nous a pas fait de cadeaux, loin de là. Donc, c'est allé même très loin dans des cabales, des rumeurs, des... vous savez, les gens sont prêts à tout pour défendre leur structure. Et puis, on s'est opposé, effectivement. Nous, on a toujours essayé d'être dans une logique de territoire. Parce que on vient du territoire. Nous, on est des militants, de lutte urbaine. C'est-à-dire, on s'est défendu pour un quartier, on s'est pas défendu pour une activité lambda. On a une vision... du territoire avec un projet pour ce territoire qui reste un symbole du vivre ensemble, du faire ensemble et de la tolérance. Vous voyez, en même temps en aidant les gens les plus fragiles à aller vers l'autonomie et à prendre leur vie en main. Alors que il y a beaucoup d'associations qui sont uniquement dans une logique de structure, c'est-à-dire de défendre leurs salariés, de courir après les subventions pour pouvoir se maintenir dans leur activité. Donc, on était dans une logique complètement différente de ça. Vous voyez, puisque notre structure, elle était assurée, du coup. Donc, on avait les moyens de se préoccuper plus du territoire que de la survie de notre structure. Donc, voilà, c'est ce qui nous a le plus usé, parce que on était quand même naïfs et on comprenait pas, on n'avait pas mesuré à quel point on allait attiser autant de rivalité, de concurrence. Et c'est un monde, le monde associatif et le monde autour des subventions, c'est un monde quand même assez cruel.
Et comment vous pensez que ça s'est résolu? Si ça s'est résolu.
Je pense pas que ça soit résolu, parce que vous voyez, en même temps, on dépend de subventions publiques. Donc forcément, il y a des enjeux politiques derrière, il y a des manipulations politiques, c'est dans des jeux d'acteurs très très complexes, parce que une structure comme ça dans un quartier comme celui-là, elle est forcément politique. Que la ville ait fait ce choix d'implanter, c'est un choix politique qui peut être remis en question plus tard. On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Donc, il faut être politique. En même temps, il faut être neutre. Et ce quartier est politique, parce que c'est pas rien d'avoir un quartier comme ça en centre-ville. Ça donne un message quand même qui, aujourd'hui, quand on voit comment sont en train d'évoluer les centres-villes des grandes villes, qui a un message un peu atypique aussi. Et donc, ça a laissé des traces. Ces clivages sont toujours là. On essaye d'être fédérateur, de ne pas rentrer dans ces jeux-là. Mais on continue à susciter beaucoup de, je veux pas dire de jalousie, mais quelque chose comme ça. Et puis, il y a une autre chose qui a été un grand obstacle. C'était le fait qu'on soit des... Vous voyez, la plupart des centres sociaux, ils sont créés en fait par des techniciens, c'est-à-dire des gens du métier, des professionnels. Or nous, la grande difficulté qu'on a eue, c'était à faire admettre que des militants puissent avoir puisse monter en compétences et puisse avoir une certaine aller vers une certaine technicité. Et on nous opposait tout le temps le fait qu'on était des militants, mais qu'on n'était pas des professionnels. Mais nous, on voulait que notre projet, ça soit un projet de militant. Et ça, ça nous a été, parce que les structures alentours, les partenaires alentours, c'était essentiellement les salariés qui étaient en conflit avec nous et qui nous disaient, de toute façon, vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas des professionnels. Vous êtes des militants, vous n'êtes pas des professionnels. Bon, on peut être des militants, mais on peut aussi acquérir une certaine compétence, voilà. Bien sûr, ça a voulu dire qu'il fallait, c'était exigeant, parce qu'il fallait être au niveau. On nous faisait aucun cadeau. Mais après, ce clivage entre les militants du conseil d'administration et les professionnels, eh ben, on l'a vécu dans l'implantation du centre social, où on a eu des équipes de salariés qui nous disaient, bah, laissez-nous faire. Nous, c'est notre métier. Vous n'y connaissez rien. Et ça, je pense que ça, on a du mal à se sortir, voyez, de ce cloisonnement. Dans toi, tu t'occupes des jeunes, moi, je m'occupe des vieux, ou toi, t'es professionnel, toi, t'es militant. Il y a beaucoup de cloisonnement dans les esprits, et c'est difficile au quotidien que tout le monde trouve sa place. Donc voilà, notre côté atypique fait que ça a été difficile et que ça sera toujours difficile parce que je crois que ça fait partie de notre ça fait partie un peu de notre ADN.
Alors, le centre social lui-même a ouvert ses portes il y a plus de 10 ans. Les activités avaient déjà démarré plusieurs années avant, avec tout un travail de mise en lien de réseau dans le quartier. Avec le recul, maintenant plus d'une quinzaine d'années, quel genre de bilan vous pourriez faire ?
Eh bien, on a fêté le 10e anniversaire là en octobre. Bah, que on a eu raison, que notre utopie est devenue une réalité. Donc, vous savez, quand on a commencé à militer pour que le quartier soit pas démoli et qu'il soit réhabilité, tout le monde disait que on était cinglés et que c'était pas possible. Donc c'était même pas improbable, c'était impossible. Donc on est passé d'impossible à improbable et on l'a rendu possible. Le centre social, moi j'avais jamais mis, je savais même pas ce que c'était qu'un centre social, j'avais jamais mis les pieds dans un centre social quand on a lancé cette idée-là. Et c'était un truc de fou. Donc moi le bilan que je tire, c'est que il faut résister, il faut aller au bout de ces idées. Et quand les idées sont justes et quand les idées elles viennent d'en bas. Parce que les idées, c'était pas des idées saugrenues, comme je l'ai dit, que j'aurais conçues dans ma petite tête. C'était d'être à l'écoute des gens du quartier, d'écouter. C'est ce qu'on faisait dans les réunions du comité des militants. En fait, on écoutait ce qu'ils avaient à dire. Et donc après. Eh ben c'est quoi, c'est 20 ans d'engagement. Ça veut dire que une idée, même si elle est juste et qu'elle a du sens, il faut beaucoup 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 d'énergie pour en faire une réalité. Donc le bilan, c'est ça, le bilan c'est à la fois comme disait Kennedy, il faut rêver sa vie et vivre ses rêves. Mais vivre ses rêves c'est de l'engagement. L'autre bilan que je tire, bon, c'est le bilan plus, c'est le côté obscur. Ben, c'est toutes ces résistances. J'ai jamais su, je veux pas savoir parce que sinon on devient paranoïaque. Vous voyez, ce genre d'aventure, ça vous rend un peu paranoïaque. Parce qu'on se dit pourquoi et on voit bien quand on fait le bilan de ce qui s'est passé dans les banlieues, dans les quartiers, de la politique de la ville, pourquoi on a autant divisé. Le bilan, il est négatif quand même, globalement. On voit bien l'état de la France. Il y a quelque chose qui va pas très bien. On se dit, vous voyez, à l'échelle d'un quartier comme ça, on se dit pourquoi il y a pas eu de, j'allais dire, de front commun pour lutter contre la précarité, pourquoi tout le monde a essayé de tirer la couverture à soi. Ça, moi, mon espèce de naïveté par rapport au monde du social, je dois dire que j'en tire un bilan quand même assez mitigé de ce qu'on fait sur ce terrain du j'aimais pas trop le social. Et puis au bout du compte, finalement j'aime toujours pas trop quoi.
En ce qui concerne le centre social Bonnefoy, malgré tout, vous avez l'impression qu'il remplit la fonction que vous aviez imaginée au départ ?
On est toujours déçus, parce qu'on aimerait que... Vous voyez, pour moi, le centre social, c'était une Ferrari. On l'a imaginé comme un bolide, quoi. Quelque chose qui soit très, très innovant, performant. Bon. Je trouve parfois que c'est une deux chevaux. Mais après, on peut pas, je pense que, on peut juger qu'avec le recul sur la durée.
Par exemple, qu'est-ce que vous auriez souhaité, préféré?
Moi, j'aurais, vous voyez, il y avait un axe fort dans notre projet qui était à l'échelle du territoire. Dans notre projet, il y avait trois grands axes. Il y avait un axe individuel qui était d'aider les gens dans leurs problématiques personnelles. Il y avait un axe du collectif, c'est-à-dire de faire les choses avec les autres, pas que pour consommer, mais aussi pour créer de la relation. Et puis, il y avait un axe au niveau du territoire, c'est-à-dire de l'identité. Et on voit bien que les questions de mémoire, les questions d'identité, les questions de patrimoine, elles sont de racines, elles sont aujourd'hui importantes. On est dans une société où la société française, elle va pas très bien, et ces questions d'identité, elles sont vraiment à l'ordre du jour, où les gens sont coupés, surtout dans des quartiers d'immigration comme le nôtre. Et on avait un atout qui est extraordinaire ici. C'est que on a pu dépasser, transcender les identités, d'aller du particulier vers l'universel, qui était l'universel de ce quartier, de son ADN, des valeurs qu'il incarne, c'est-à-dire l'hospitalité, l'humilité, de braves gens qui ont bougé mais qui ouvrent leurs portes. Les commerçants sont assez extraordinaires dans le quartier. Ils sont dans une grande simplicité, mais ils incarnent ces valeurs sans faire de discours. Ils incarnent ces valeurs d'hospitalité. Et ça, c'est une histoire, l'histoire de ce lieu, c'est une histoire qui donne des racines. C'est un quartier d'exilés, c'est un quartier de gens. La place du Pont, c'est un quartier d'accueil, c'est une zone avant d'entrer dans la ville, c'est une zone de rétention. Et là, les gens ont trouvé il y a un attachement très très fort des gens au quartier, de toute la, des immigrations, tout le monde est passé par là, même de toute l'agglomération. C'est un quartier vraiment très symbolique. Et moi, je pense que les questions d'identité, alors j'ai essayé de le faire à ma manière, mais j'ai jamais été comprise par les salariés. Les questions d'identité, on aurait dû les travailler beaucoup plus, des mémoires individuelles, des mémoires collectives, parce que les gens ils sont paumés aujourd'hui. Les jeunes, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, ils ont besoin de parler leur langue, ils ont besoin de connaître l'histoire de leurs parents, l'histoire de leur famille. Ça peut pas marcher sans ça. Et cette dimension là qui est une dimension beaucoup plus symbolique, beaucoup plus politique au sens noble, je trouve qu'elle n'a pas été investiguée, ou que les salariés, tout ce qu'ils ont jamais voulu aller sur ce terrain-là, et c'est dommage, parce que la culture, il faut pas qu'elle soit que dans la consommation du spectacle, de musique, world music ou je ne sais quoi. La culture, c'est des choses plus profondes qu'il fallait travailler via des témoignages. Et puis moi ça, j'aurais aimé en faire une université populaire, une sorte de lieu. Pour moi, un centre social, ça doit être un lieu de culture profonde, quoi. D'accès à la connaissance, de témoignages, de réflexion. Je pense pas que les questions d'identité, on puisse les régler que en faisant un concert où il y a le groupe machin, le groupe truc. Ouais, ok, c'est sympa, mais c'est pas ça. Ça règle pas ça. Et je trouve que sur ce terrain-là, on n'a pas été assez loin. Et moi, je me suis sentie beaucoup seule à aller investiguer tout ça.
Et est-ce que ça veut dire que vous pensez que le centre social Bonnefoy a perdu de son atypicité, de sa singularité, et qu'il propose des activités comme d'autres centres sociaux dans d'autres quartiers?
C'est bien qu'il... oui, et c'est... Vous voyez, c'est le socle, puisque on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est bien qu'il y ait ces activités, parce qu'elles rendent service, et c'est très très bien qu'il soit là. Donc ça, c'est un bilan, heureusement qu'il y a des structures comme ça aujourd'hui, où les gens se sentent accueillis, vous voyez, pas rejetés. Mais moi, je pense que le travail sur l'identité et la mémoire et le patrimoine, c'est pas faire des débats sur qui est plus laïque que je ne sais qui est plus républicain. C'est pas ça, parce que là-dedans, il y a une forme de moralisation. Mais par exemple, tout le travail sur l'écriture, le travail sur la langue, le travail sur la santé, c'est quand même extraordinaire que, vous voyez, dans un quartier comme celui-là, vous avez, j'ai des amis qui font de la médecine chinoise et ils viennent acheter leurs ventouses. Maintenant, c'est très à la mode d'utiliser les ventouses en médecine chinoise. Ils viennent les acheter à Dubai Center. Il y a des gens qui se soignent, qui vont dans le quartier chinois acheter des plantes, d'autres qui vont dans le quartier indien qui font de la médecine ayurvédique, d'autres qui vont chez les Africains. Tout est fait pour nous diviser, et en fait, dans nos pratiques quotidiennes, que ce soit les pratiques de santé, d'alimentation, de tous les rituels de la vie, il y a plein de choses qui nous rassemblent, quoi, et qui peuvent être des choses de grande culture. À un moment donné, on faisait avec une association, mais qui après est partie, Formidec, on animait à l'ouverture du centre social, on avait un café philosophique, et on avait un samedi interculturel, où on prenait des thèmes extrêmement simples, comme le thé. Il y avait des Syriens, des Libanais, des Mauritaniens, des Chinois, des Japonais, des Anglais. Hein. Et on parlait de notre pratique, des Marocains, des Tunisiens, de notre pratique du thé. À la fois, il y a toutes nos diversités et tout ce qui nous rassemble. Et si on y met un contenu scientifique, on peut faire des choses formidables et voir que... On peut aller vers l'universel. Et pour moi, un centre social, c'est pas fait pour faire la morale aux gens, mais pour trouver notre humanité. Notre humanité, c'est la vie, la mort, c'est toutes ces choses qui nous rassemblent. Et ça peut être travaillé de manière intelligente, pas moraliste. Je trouve qu'il y a toute une catégorie de la population à qui on passe notre temps à faire la morale pour les remettre dans le droit chemin. Vous voyez?
Alors, ça nous amène à la question suivante. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, ou qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre à des personnes qui voudraient monter le même genre de structure?
Du courage. Vous savez ce qu'on dit, si j'aurais su, j'aurais pas venu. En fait, il faut être totalement inconscient pour se lancer dans des aventures pareilles. Et il faut être un peu, il faut avoir, comment dire, de l'énergie, de la constance et un brin de folie pour euh, pour passer au-delà de toutes les contingences. Mais c'est ça qui est rigolo. Après, moi, je pense que ça prend beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris plus de 20 ans de... C'est-à-dire que j'ai sacrifié énormément de choses. Après, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus sur ce type de temporalité. C'est très difficile de trouver des militants qui s'engagent sur la durée. Si vous dites maintenant aux gens, tu t'en prends pour 20 ans... Parce que il faut pas un an, ça suffit pas. Il faut pas faire de, on n'apprend rien. En fait, on apprend sur la durée. Après, peut-être que nous, on était les gens qui ont vraiment été acteurs. On a plus de la soixantaine maintenant. On est d'une génération, on est les générations très idéalistes qui a fait mai 68. On avait encore une certaine vision de la société. Aujourd'hui, j'ai du mal, moi, à... Je vois que, par exemple, la génération X comprennent pas. Ils sont pas du tout... Nous, on a accepté de sacrifier notre carrière, notre vie, pour un idéal. Voyez. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Je pense que les générations ont changé parce que les conditions de vie, nous, on n'a pas connu le chômage, on avait une certaine sécurité dans notre vie professionnelle. On a pu faire ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si les générations, la génération Z ou Y, là, qui arrive maintenant, je pense qu'ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres outils. Ils sont pas formatés comme nous, ils travaillent avec les réseaux sociaux, ils travaillent différemment, de manière peut-être plus évoluée, et que peut-être ils pourraient arriver à des résultats bien meilleurs que les nôtres en mettant moins d'énergie et en étant plus efficaces. Vous voyez, peut-être que... Donc, donner des conseils, je peux donner des conseils que... au niveau de la constance, quoi. Et puis je pense surtout qu'il faut être stratégique quand on veut faire des choses comme ça, parce que il faut tenir compte de ceux qui sont en haut, c'est-à-dire des financeurs, donc des politiques. Il faut tenir compte, j'allais dire, de ceux qui sont en bas sur le terrain, c'est-à-dire du public, de pas être déconnecté du public. Il faut tenir compte de ceux qui sont autour, c'est-à-dire des partenaires. Donc, il faut être dans la complexité, la stratégie et l'écoute de tout ce monde et se frayer un chemin entre tout ça qui est extrêmement mouvant. Vous voyez, il faut surtout pas être dans sa bulle et se dire, voilà, c'est moi qui ai raison et je continue mon projet, coûte que coûte. Là, il faut être tout le temps, j'allais dire, il faut toujours être sur le terrain. C'est-à-dire, quand on fait des projets comme ça, il faut pas être que derrière son ordinateur. Il faut plus fréquenter les bistrots et discuter avec les gens. Il faut le faire dans la rue, ce projet. On voit bien qu'on est dans une société de plus en plus liquide, de plus en plus mouvante, et il faut s'adapter tout le temps. Donc, il faut... avoir un idéal très fort, mais il faut aussi avoir les pieds sur terre tout le temps. Donc il faut être très réaliste. Il faut à la fois être très idéaliste et en même temps très 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 réaliste. Et puis avoir un idéal. Je pense que si on rêve pas et on n'a pas d'idéal, ben on baisse les bras. Voilà.
En même temps, les idéaux dont vous parliez précédemment, la mixité, la solidarité, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la génération qui arrive.
Ouais. Moi, je pense qu'ils vont inventer. Moi, je suis d'un naturel optimiste. Sinon, j'aurais pas fait ce que j'ai fait, parce que c'était tout le monde me disait, mais ça marchera jamais. Je pense que les générations qui vont construire la société de demain, ils ont un idéal. Vous voyez, par exemple, les gens qui ont créé l'autre côté du pont, qui était une coopérative, on a démarré ensemble. On était quand ils ont ouvert, nous on était sur le projet du centre social. Et il y a une Boris qui travaille, qui est partie de l'autre côté du pont, mais qui s'est dit, par exemple, l'alimentation saine, bio, équitable, de qualité, il faut pas qu'elle soit réservée qu'aux bobos. Et donc, lui, il a créé une association avec Habitat Humanisme, avec la Fondation Abbé Pierre, qui s'appelle En Vrac, où il travaille justement avec les centres sociaux pour mettre à la portée des publics les plus fragiles, mettre l'alimentation saine en vrac, en mutualisant. Et ça, ça c'est très très important, et ça a vraiment du sens. Enfin, il faut pas que l'alimentation de qualité, tout ça, ça soit réservé qu'à une élite. C'est bien qu'il y ait Biocoop, qu'il y ait Naturalia, La Vie Claire dans tous les coins, mais il faut que tout le monde puisse accéder à ça. Et je pense que tout ce qui est autour de l'alimentation, la santé, je pense que les générations là qui viennent vont être très très actives. J'ai vu qu'il y avait un projet de coopérative bio là qui était en train de se créer, associative à Lyon. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je pense que là, il y a des choses très très importantes. En ville, on va crever de la pollution, du stress, de l'alimentation. Donc là, il y a des combats où on voit qu'il y a une fracture. Là, je pense que les jeunes, ils sont outillés pour inventer. On voit bien, hein, ceux qui ont inventé les réseaux sociaux. Là, il y a des combats très importants à mener par rapport à l'information, et je pense que l'éducation populaire, c'est bien, mais je pense qu'il y a d'autres combats à mener que les jeunes vont pouvoir mener avec leurs outils, leur énergie. Mais il y a des cinglés chez les jeunes aussi, hein, non?
Donc on peut leur donner aussi le conseil de ne pas écouter les arguments trop raisonnable.
Et il faut être réaliste, pragmatique et stratégique, mais il faut pas être raisonnable. Sinon, on fait rien. Faut être fou. Bah oui, faut être fou. Des idées les plus saugrenues, c'est souvent. C'est-à-dire, il faut imaginer tout le temps. Faut être créatif. Et il faut avoir des rêves, parce que sinon, c'est la sécurité sociale, tous ces trucs-là. Regardez-moi. Moi, je pense toujours aux gens qui ont fait la résistance. Moi, à côté, on est des rigolos. Mais quand même, les gens qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale, en même temps, ils ont imaginé la société d'entraide, de mutualisation dont on profite, nous, aujourd'hui. Enfin, ils se sont battus, mais ils ont rêvé. Et ça marche encore, donc il y a aucune raison que ça continue pas.
Eh bien, merci Marie-France pour avoir évoqué de façon aussi passionnante le centre social Bonnefoy et puis ses débuts et toute son histoire. Merci
Catherine.